Je m'appelle Nestor, j'ai 31 ans et je suis un nain. J'ai les yeux clairs, des mèches blondes sur les sourcils pour cacher une légère proéminence frontale et pas de signe particulier notable, hormis une petite cicatrice sur la joue droite, souvenir d'un lointain croche-pied dans la cour de récré. Je vis chez ma grand-mère, à Montmartre, rue de Steinkerck, dans le même immeuble qui m'avait vu débarquer un soir de grande dispute, empaqueté dans des langes souillées, à moitié mort de faim. Nous logeons au troisième étage d'un vieux bâti sans ascenseur. Notre appartement est petit, mais il a l'avantage de donner côté rue d'Orcel, droit sur le Sacré-Cœur. Quand j'étais plus jeune et insomniaque, je montais souvent à la basilique, vers 4 heures du matin, et je restais là, assis sur une marche, à attendre que le jour se lève sur Paris, qui étalait la prairie de ses lumières à perte de vue. C'était un moment à moi tout seul, un moment où il me semblait que rien ne pouvait m'atteindre. Je vous mentirais si je vous disais que je n'en ai pas bavé. J'ai souvent touché le fond, sauf qu'à chaque tasse bue, je donne une bonne ruade dans la vase, comme sur un tremplin, pour remonter plus vite qu'une torpille. C'est dans ma nature d'encaisser sans jeter l'éponge. J'aime rire, déconner, me faire mousser et rêver. Rêver de sacres improbables, renaître là où les vents s'essoufflent, fermer les yeux et me farcir des univers merveilleux, pavoisés de feux de Bengale. Gagner le cœur de la fille que j'ai matée un soir, sans oser l'aborder, pendant qu'elle lisait tranquillement un bouquin sur un banc public. Ou bien celui de la belle qui attendait le bus au coin de la rue en parlant dans son téléphone. Ou bien encore celui de la vestale qu'on ne rencontrera jamais. Qui m'empêche de me prendre pour le tombeur des femmes à ailes blanches, ou pour le héros inoxydable de mes films préférés, ou encore pour le conte de quelque chose qui ne dit rien à personne? Et qui sera mon titre de noblesse à moi? Je considère l'existence comme une offrande, inespérée, sous une cloche de verre piégée. J'ai le choix entre la contempler en salivant dessus, ou bien soulever la cloche. J'ai choisi de prendre le risque. Il n'y a pas de risque non négociable pour celui qui veut vivre pleinement sa vie. Celui-là doit savoir gérer les échecs, relever les défis, et se désaltérer dans la sueur de son front comme dans une eau bénite. Le monde est une combinaison de hauts et de bas, et nous en faisons partie. Personne n'y peut changer grand-chose, mais chacun doit composer avec. Si le commun des mortels a du mal, parfois, à se regarder dans un miroir, je passe un temps fou à me faire du gringue dans la glace, comme si j'étais une pin-up à poil sur une plage des Caraïbes. Le narcissisme n'est pas un privilège que s'adjugent exclusivement les beaux gosses. Il est, quelquefois, l'expression naturelle de la joie de vivre. Même avec des béquilles ou avec des prothèses, je continuerai de marcher dans les pas du temps en randonneur subjugué. Lorsque je me relève d'une dégringolade, je me dis « Waouh, sacré Ness, tu es vraiment phénoménal !» Depuis que j'ai décidé de carburer à la nitroglycérine, je tourne à plein régime, et tant pis si je pédale dans le vide. Ce qui importe, c'est refuser crânement d'abdiquer, ne jamais renoncer à son rêve. Si on arrive à prendre son pied là où l'on traîne l'autre, on aura compris comment dépasser ce qui nous empêche d'avancer. Aujourd'hui, il pleut. Lorsqu'il pleut sur Paris, c'est comme si on floutait une toile de maître. La plus belle ville du monde se voit délestée de sa féerie, pareil à une vieille diva en train de se démaquiller dans sa loge. Le nez contre la vitre, je contemple ma rue. J'adore ma rue, ses bâtiments au fronton suranné et aux volets qui n'en finissent pas de s'écailler. J'avoue que le coin est trop bruyant, avec ses contingents de touristes, de vendeurs à la sauvette et de sans-papiers en déroute. Mais le soir, les choses rentrent dans l'ordre et chacun réintègre son élément. Nous recensons beaucoup de gens âgés dans le quartier. Ceux-là ne sortent presque pas, sauf lorsqu'ils y sont forcés, ou bien lorsqu'il fait beau. Aussi sortent-ils au soleil, se dégourdir un peu. On les voit flâner au ralenti, le dos ployé sous le poids des ans, la figure rongée par les lassitudes, le pas somnambulique, comme si le jour n'était pour eux qu'une nuit blanche sans rêve et sans écho. Certains d'entre eux se rendent au parc. D'autres occupent le premier banc public sur leur chemin et ne bougent plus. Tiens, voilà Monsieur Michelet, notre voisin du premier, qui sort son vieux chien à moitié aveugle. Monsieur Michelet était célèbre dans les années 1960. Je crois qu'il était scénariste ou quelque chose dans ce genre. Il fréquentait Jean Gabin, Francis Blanche, Simone Signoret, Michel Simon, Jean Marais et un tas d'artistes de renom. Sur une photo, dans un cadre joliment sculpté, on le voit, à ses 20 ans, dîner en compagnie de Jean Cocteau, dans un resto bondé de sommités, avec, en arrière-plan, un individu chauve qu'on suppose être Picasso. Ma grand-mère était très amie avec sa femme, Augustine, une belle créature aux yeux immenses. Cette dernière nous invitait régulièrement chez elle autour d'un café pour parler des poètes et des romanciers. C'était une dame agréable, généreuse et d'une culture encyclopédique avant qu'une foudroyante méningite l'emporte, il y a une décennie. Après, M. Michelet n'a plus eu la cote et le décès brutal de son épouse a aggravé les choses pour lui. Depuis, seul et oublié, il s'amenuise dans son grand appartement qui sent le renfermer, aussi discret et silencieux qu'une ombre. Au premier étage de l'immeuble d'en face, Nicole a ouvert sa fenêtre, malgré le froid. Enserrée dans sa nuisette rose, elle fait de l'exercice. Nicole est une grosse bonne femme qui bosse chez Tati Mariage le jour. La nuit, elle hante les ruelles interlopes où des personnages louches parlent à voix basse en surveillant leurs arrières. Tout le monde à Anvers est au courant de ces incartades nocturnes. Mais personne ne lui manque de respect. Nicole a peut-être un tas de reproches à se faire, mais le cœur, elle l'a sur la main. Quand un client n'a pas suffisamment de quoi s'offrir une passe, elle s'arrange avec lui. Je connais pas mal de paumés qui se sont ouverts une ardoise chez elle. « Le crédit, ce n'est pas interdit », a décrété Nicole. « Mais ce qui n'est pas de la charité a un prix. » Revoilà M. Michelet qui revient sur ses pas, sans son chien et sans son parapluie. Éperdu, choqué, il hurle comme s'il y avait le feu. Deux hommes en tablier sortent de la boutique du Marocain. Monsieur Michelet montre quelque chose que l'angle mort de ma fenêtre cache et rebrousse chemin en titubant. J'ouvre la fenêtre, me penche au dehors. J'entends des klaxons qui s'impatientent. Ça et là, des curieux se rejoignent sur le trottoir et regardent du même côté. Au moment où je commence à me geler, une voisine débarque, un sac de provisions sur les bras. C'est Madame Largot, une ancienne ouvreuse du cinéma Louxor. Je lui demande ce qu'il se passe. Comme elle est un peu dure de la feuille, elle ne comprend pas de quoi je parle et rentre chez elle. Je m'apprête à refermer la fenêtre quand Nanar passe sous le balcon. Si un jour vous avez la police de Paris au complet à vos trousses, ne demandez surtout pas votre chemin à Nanar. C'est le type qui, lorsqu'il vous donne un coup de pouce, rapplique une heure après, vous réclamez la lune. « C'est quoi ce boucan ?» je lui demande. Nanar recule sur le trottoir, lève la tête, la main en visière. « Le salaud. Il me voit parfaitement, mais il feint de ne pas me localiser. Il joue tout le temps à ce jeu imbécile avec moi. Même quand je suis en face de lui, il fait semblant de chercher d'où provient ma voix. « Où t'es, bordel ?» « Va te faire foutre, gros lard !»« D'abord, je suis pas gros, je suis épais. Nuance !» Le voisin du deuxième, un ancien greffier, montre sa calebasse de bureaucrate ornée d'une regrettable tonsure et demande ce qu'il se passe sur un ton effarouché. Depuis les attentats terroristes qui ont endeuillé Paris en novembre 2015, certains s'angoissent vite dans le secteur. Nanar le rassure. « C'est rien, monsieur Boulet. Une ambulance a écrasé le chien de monsieur Michelet, c'est tout !»« Ah !» dit l'ancien greffier. Nanar me montre sa langue. Je lui décoche un bras d'honneur et referme la fenêtre. En me retournant, je surprends ma grand-mère, debout au milieu du salon, les cheveux défaits, la robe de chambre ouverte sur son maigre corps fripé. « Tu as besoin de quelque chose, mamie ?» Elle sursaute, semble émerger d'une profonde hypnose, regarde autour d'elle, l'air perdu. « Je ne trouve pas mes pantoufles. »« Elles sont à tes pieds, mamie. » Elle constate qu'elle les porte et se frappe le front du plat de la main. « Où avais-je la tête ? Ces klaxons relancent mes migraines. C'est encore un mariage maghrébin ? »